amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Je comprends l'origine de la fraternité des hommes. Les hommes étaient frères en Dieu, on ne peut être frère qu'en quelque chose. S'il n'est point de nœud qui les unissent, les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être frère tout court. Mes camarades et moi sommes frères en le groupe 233, les Français en la France. Ma civilisation, héritant de Dieu, a fait les hommes frères en l'homme. Ces paroles sont de Antoine de Saint-Exupéry. Alors, ce frère en l'homme, aujourd'hui, il va être incarné par un de nos grands auteurs, un de nos grands poètes, qui a disparu il y a peu de temps, qui est Bruno Durocher. Bruno Durocher, dont Nicole Gdalia, la directrice maintenant des éditions Caractères, qui ont été fondées par Bruno Durocher, vient de publier, et c'est un exploit, l'œuvre complète. Alors, il y a trois volumes. Le premier volume, nous en avons parlé beaucoup sur cette radio ici, dans l'émission Les Poètes, mais également nous avons fait des animations à l'Hostal d'Occitanie, à la maison de l'Occitanie, à Toulouse, pour présenter cette édition, Les Livres de l'Homme, l'œuvre complète de Bruno Durocher, qui venait de sortir son tome 1, qui était le tome consacré à la poésie, à l'image de l'homme. C'est le titre de ce recueil de plus de 1000 pages. Ensuite, après l'œuvre de poésie, donc une œuvre de poésie qui est quand même pleine d'un millier de pages, en plus des pages style des éditions La Pléiade, donc ce papier est très fin. Les deuxièmes tomes va constituer la prose de Bruno Durocher, donc dans ses livres de l'homme, œuvre complète, qui aura pour titre « Les mille bouches de l'homme ». Et puis le troisième volume, qui est paru, va regrouper tout le théâtre et tous les essais de Bruno Durocher avec « Métamorphose de l'homme ». Alors, qui était Bruno Durocher? J'en ai beaucoup parlé. Et je voudrais simplement peut-être lire la dédicace de Nicole Gdalia, dédicace qu'elle avait également rédigée pour le recueil La poésie à l'image de l'homme. Je vais lire la dédicace de la prose « Les mille bouches de l'homme ». Ton adolescence révoltée, turbulente, en quête de sens et d'absolu, a été peu à peu étouffée par le cri, le lamento douloureux, l'effroi métaphysique face à la barbarie nazie. Après ton recueil de poèmes « Contre », publié à 17 ans et rapidement suivi par « Poèmes barbares », tu allais prendre place dans l'avant-garde. La critique l'avait surnommé le Rimbaud polonais quand l'invasion allemande de la Pologne fit taire ta voix. Toi, le jeune étudiant en philosophie à la tête pleine de lectures et d'interrogations, tu avais endossé l'habit de Don Quichotte, soucieux de dégager du tintamarre une manière stable et définitive. Tu n'eus pas le temps de publier ton troisième livre. Cette fiction surréaliste et visionnaire, La foire de Don Quichotte. La réalité t'avait conduit dans l'enfermement et l'embrasement des camps de la mort. 6 années de ta vie furent la proie du nazisme en acte. Par un miracle, que tu interrogeas toute la suite des ans tu en ressortis vivant alors que tous les tiens disparurent sans sépulture. Le lent retour à la vie se fit sur le sol français. Paris t'accueillit, te reconnut, te donna nom et langue. Bruno Durocher prenait place dès 1949 dans la littérature française, créait une revue internationale de poésie, d'art et d'idées, écrivait en français, était salué par ses pairs. Cette résurrection ne te coupait pas de ton passé, le proche, dont il était difficile, voire impossible, de parler. Celui plus lointain de ta jeunesse, pour renouer avec elle, tu réécrivis en français et publia en 1953 « La foire » de Don Quichotte. Par morceaux douloureux, tu extirpas le livre de ta vie, le livre de l'homme. Quelle insoutenable douleur et quel non-sens dans le cours des événements, écrivit ton ami Gaston Bachelard. Don Quichotte s'y perdait, s'accrochait à sa nostalgie. Je porte depuis des siècles en moi cette nostalgie de l'infini. Se succèdent en français tes œuvres de poésie, prose, théâtre, essai. De tous tes combats et de tous tes efforts, il ne reste qu'un point d'interrogation. Comment remettre en place le visage du jeune homme que la guerre avait arraché? Jamais plus. Il ne retrouvera dans le tourbillon des métamorphoses sa place d'origine. Je suis étranger. Je ne connais pas le langage de la terre. J'ignore le sens de ce théâtre qui se déroule autour de mon corps. Ma vie, ici, fut toujours souffrance. Aucune boisson n'a pu apaiser ma soif de connaître l'infini. Écrivais-tu dans ton dernier recueil de poèmes étrangers, recueil publié en 1994. Voilà la dédicace d'Nicole Gdalia, dont la directrice maintenant des éditions Caractère qui publie l'œuvre complète de Bruno Durocher. L'œuvre complète donc qui se décline, je le répète, en 3 tomes, poésie, théâtre et essai, et également prose. Alors, vous l'avez compris, et c'est pour ça que j'ai lu cette dédicace, vous l'avez bien compris, la vie de Bruno Durocher est une vie qui a été marquée par les événements terribles du XXe siècle. Né en Pologne, très tôt, il s'est révélé comme poète. Hein. On disait de lui que c'était le Rimbaud polonais, comme elle le rappelle. Et il fut arrêté très jeune par la Gestapo lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Et il passa 6 ans de sa vie dans les camps de concentration. Puis, à la libération des camps, il ne put revenir sur Varsovie. Ça lui était difficile. Il faut dire qu'à cette époque-là, Varsovie ne ressemblait plus peut-être à la Varsovie qu'il avait connue. Et donc il fut un choix qui est quand même assez révélateur de l'homme. Le choix vers le pays des Lumières, le choix vers le pays de la liberté, le choix vers le pays en définitive de l'incarnation de la poésie, c'est-à-dire le choix de la France et de Paris. Et peu de temps après son arrivée à Paris, voilà qu'il crée une maison d'édition, les éditions Caractère, qu'il publie les plus grands noms de la poésie de l'époque, et qu'en 1949, il occupe une place primordiale dans l'édition de la poésie et dans la poésie française. En 1958, Bruno Durocher va vouloir revenir dans son pays, va en Pologne. Mal lui en prit. La Pologne était sous ce régime communiste, dans ce rideau de fer. Et ce rideau de fer s'est refermé sur lui. Il s'est refermé longtemps, très longtemps, 10 ans. 10 ans pendant lesquels, bien entendu, il a dû quitter Paris, où il n'a plus pu exercer son activité d'éditeur, et où, à la suite d'une ruse, il se rendit en Afrique. Et de l'Afrique, il put de nouveau regagner la France. Et là, cet homme d'une incroyable volonté, cet homme a reconstitué ce qu'il avait perdu, et les éditions Caractère, de nouveau, ont pris cours. Et il n'y a pas véritablement de poète qui, à cette époque-là, n'ait publié au moins un texte dans sa revue Caractère, si ce n'est bien entendu les recueils dans ses éditions. Alors lui-même, qui a été si dévoué aux autres, si dévoué, je peux en parler en connaissance de cause, lui-même, bien entendu, écrivait, il publiait son œuvre lui-même, c'est lui qui imprimait, il avait une machine, une impression, une presse à l'ancienne. Il faisait un travail d'artisan fantastique, et un travail d'artiste aussi, puisque il y avait beaucoup d'illustrations, de bois gravés de ses amis artistes au 7 rue de l'Arbalète. Voilà. Et il a été donc cet écrivain prolixe, mais en définitive qui n'a pas eu du tout le... Il était connu bien sûr des grands noms, etc., qui savaient qu'il y avait là une œuvre de grande qualité. Et c'est pourquoi il est important maintenant que cette œuvre qui a été réunie quand même, et merci à Nicole Gladia d'avoir fait ce travail, merci au Centre National du Livre également qui l'a aidé, d'avoir publié donc l'ensemble de l'œuvre de Bruno Durocher, qui est donc ainsi absolument sauvée. Et c'est important. Alors je vais dire, je crois que c'est quand même pour ça qu'on est là, ici, à Radio Occitanie, pour faire connaître un peu ces auteurs qui sont des auteurs humanistes, qui modèlent peut-être notre civilisation par justement cette diversité qui se reconnaît quand même toujours un peu quelque part dans la cause universelle de l'homme. Les livres de l'homme, hein, c'est les titres, le titre des trois recueils, des trois beaux volumes de l'œuvre complète de Bruno Durocher, les livres de l'homme. Et donc nous allons d'abord recommencer par la poésie, à l'image de l'homme, c'est le titre. Il n'y avait pas de commencement, car depuis toujours la planète donnait la vie à la planète. La parole devenait corps avec les mains, le ventre et la tête. À travers l'univers voguent les grains de la vie, touchent le sol des terres pour donner les feuilles au vent qui se promènent entre les soleils et les comètes, entre les rêves et la matière. La vie est un songe de la mort réelle qui n'existe pas, car c'est la vie qui change et qui part vers l'autre monde. L'homme est l'œuvre de la chair et du sang et de l'argent, enfermé dans les cœurs nés de soleil et de terre. Poignardé par les affiches des événements, l'homme traverse l'actualité et la voie lactée. Les évangiles sont écrits sur chaque place, le pain et les conserves, vérité de la faim, qui se querellent comme des héritiers après la mort d'un riche parent. l'homme, découvre un dieu pour pouvoir assassiner et pour continuer cette aventure sans commencement et sans fin. Alors vous voyez, je parlais de l'universalité d'une œuvre comme celle de Bruno Durocher et de son intemporalité, mais aussi de ce caractère prophétique. L'homme, disait-il à cette époque-là, l'homme découvre un dieu pour pouvoir assassiner et pour continuer cette aventure sans commencement et sans fin. Voilà, nous sommes en plein dans l'actualité malheureusement. Il ne s'est pas trompé, Bruno Durocher. Il y avait chez lui une lucidité qui était effectivement une lucidité assez rude, mais une telle tendresse. Les deux, bien entendu, ne sont pas antinomiques. Ceux qui ont dévoré ma joie de vivre, danser avec l'ombre de ma vie, car je ne suis plus que la pensée qui se bat contre les murs de la réalité, dans laquelle vit un papillon, des nébuleuses, de la peine de changement et des combustions, une boule flamboyante sort dans l'univers, la planète enflée de vie et d'essence, et il faut vivre, mais ne pas mourir. Or chaque son est le fruit de l'effort du corps aux millions de voix, de doigts avides qui tuent. Comme un clairvoyant, je dessine les visages et les formes qui piétinent mes sens. Ah ! Dégager enfin l'harmonie des phénomènes et des mots. Mais je suis couvert par le ciel immuable et plein de catastrophes, sans aucune force pour protéger mon cri, mon souffle déchiré par les regards. Cherche l'amour des hommes. Lorsque contre le ciel vide frappe le bruit des drapeaux et des arcs-en-ciel se pose sur la statue en pierre, lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la terre et sur l'eau pour retenir le sang en révolte et les nerfs, lorsque dans l'heure manifeste tu lis ce qui criait dans ton cœur rouge, l'épouvante hurle parmi les rues et un cri se pose sur ta bouche. Révolution qui apporte le feu et la haine, amante vendue dans les arsenaux des armes, qui a changé tes rêves en gris et en chaîne et les chansons en larmes. Aujourd'hui, tu n'es que mépris de l'homme, et une image sanguinaire des prisons, dans le ventre de l'univers, tel un ver dans la pomme. Tes divisions tyranniques blessent tous les horizons. Tu nous as ravi le cœur et la passion. Damnée soit maudite, soit dans chaque souffle. Par le sentier des chants et des visions, l'homme vient, l'ange de consolation. Le vol des ailes est comme l'autre côté de la chanson qu'un ménestrel dévoile du ruisseau de la mémoire et tient dans l'air. Le temps peigne les cheveux sur les tempes des rues et change le visage de la ville. Le bateau traverse la mer des aventures, les marins sur les mâts, les chauffeurs dans la profondeur du corps, le capitaine avec le visage couvert par le manteau du destin, les aveugles entre les vents. Les marins ont quitté leur blanche maîtresse et les continents de leur jeunesse pour connaître la mer et les horizons inexistants. Combattre le temps, ça a été peut-être aussi ce qu'a fait Bruno Durocher toute sa vie. Combattre le temps, c'est ce dur désir de durer dont parlait Éluard. et dont Bruno Durocher a mis en œuvre ce dur désir de durer, puisque il a fallu survivre 6 ans dans les camps de concentration. Erreur dans la conception, défaut de fabrication. Le mécanisme de cet univers grince. Chaque rouage crie de désolation. La douleur s'est installée aux jointures. Les écrous n'entrent pas dans leur pas de vie. Tout est en guerre contre tout. Chaque pièce est en état de défense. Chaque pièce est en état d'agression. Le constructeur a vicié le plan. Sa maladresse ou sa mauvaise volonté torde les lignes droites. Tout s'enchevêtre. Le frémissement du faux mouvement parcourt toute la construction. Chaque fibre se tord dans l'effort de redressement. Rien ne trouve sa place juste. Oh, impossible désir d'harmonie. Qui donc se joue de nous? Qui insuffle la vie dans ce mécanisme raté? Qui est notre bourreau? Et pourquoi? Alors, dans le tome 2, prose, les 1000 bouches de l'homme, c'est le titre donc, de ce volume, il y a en exergue une citation de Bruno Durocher, extrait d'ailleurs de le livre de l'homme. Le jeune homme allait lentement sous le déluge de diversité quand soudain il sentit que le vent des événements lui arrachait le visage. Il vit son visage voler dans l'espace. Dans un ultime effort, il l'attrapa, mais n'eut pas le temps de le remettre à sa place habituelle. De tous les coins de l'horizon se précipitaient vers lui des hommes armés. Il fuyait les assaillants avec son visage sous le bras. Il devait courir, courir, et jamais il n'avait une seconde pour remettre son visage sur sa tête. Bruno Durocher. De Bruno Durocher, le cavalier de l'Apocalypse, dit Xavier Houssain à ce propos. Il cite un vers de la foire de Don Quichotte, écrit en 1994 par Bruno. Sors au-delà des feuilles du livre et regarde la vie humaine. Sors au-delà des feuilles du livre et regarde la vie humaine. Alors voici ce que dit Xavier Houssain. Que sait-il déjà de lui, ce jeune homme? À l'âge où les autres s'ignorent encore, il commencerait presque à devenir trop vieux. A-t-il eu des visions, une révélation? Il y avait tellement de sang sur la terre qu'aucune contrition ne pouvait plus l'effacer que dans la verdure. On ne trouvait plus de verdure. Bruno Durocher est un halluciné. En 1938, il a 19 ans. Il s'attelle à la rédaction d'une grande œuvre. Un texte qui rassemblerait sa précoce expérience à vif et ses pressentiments. Qui parlerait de la marche du monde, des élans, des horreurs, des philosophes et des poètes, des gens de rien, des amours, des peines, des victimes, des bourreaux et de la fin des temps. Il a trouvé son titre, La foire de Don Quichotte. À chacun pense-t-il de bousculer les itinéraires et de prendre, s'il peut, la place de l'Hidalgo, dévoré par ses douloureuses chimères. Il vient de publier Piesny, Barbare, Trinsky, ce sont les poèmes barbares, c'est son deuxième recueil, et il est seul, seul, solitaire plutôt. Par orgueil et par rancœur aussi, sa mère a demandé à le revoir. Il a une fois de plus refusé net, un remords lourd l'attend, un impossible deuil. Mais tout a commencé tellement bizarrement. Je suis né, conféra-t-il, Bruno du Rocher, le 4 mai 1919 à Cracovie, de Selma Kraskezgva et de Bronislav Kaminski, qui n'ont jamais existé. Comment est-il possible d'entrer déjà ainsi dans la fiction de soi-même? C'est que tout a été au départ totalement inventé. À la cathédrale Saint-Stanislas et Venceslas, on l'a baptisé Bronislav. Comme son géniteur imaginaire, Kaminski est un nom connu et fort respecté en Pologne. Usant de ses relations, sa mère, Selma Glinstein, est parvenue à imposer cette fausse identité à l'état civil. Le but de la manipulation est d'abord de soustraire l'enfant à la famille paternelle. Son véritable père, tué au dernier jour de la Grande Guerre et dont il ne connaîtra jamais qu'un portrait, est un officier autrichien, issu d'une famille noble. Mais surtout, Selma est juive. Elle veut protéger son fils de l'antisémitisme qui règne dans le pays. Alors, sans qu'on lui dise rien de ses origines, le petit garçon est élevé dans la religion catholique. On le met en pension à Cracovie, chez les pères jésuites. Il y mènera une scolarité rétive et inquiète. Son refuge est la religion. Il aime les chants à la messe, ressent de grands élans mystiques et voue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une véritable vénération. Sainte Thérèse, mon amie, serrez-moi sur votre cœur. Rien pourtant ne saura contenir sa nature rebelle. Adolescent, il rompt avec le monde qu'on lui a imposé. Rejette la foi catholique, les études, sa mère. À 15 ans, il apprend qu'il est juif et qu'on le lui a caché. Il traîne dans le ghetto, se lie d'affection avec une fille de son âge, qui l'amène pour la première fois à la synagogue. Et c'est à la conversion au judaïsme, la circoncision, la douleur, écrit-il, grandissait comme le cri d'un fou. Excommunié par l'archevêque de Cracovie, le garçon, en rupture, découvre aussi le socialisme. Il lit Marx, Lénine, Kropotkin, Bakounine, s'inscrit au cercle des jeunesses communistes. Il commence à écrire. L'œuvre en prose de Bruno du Rocher occupe une place centrale dans sa création. Elle est le lieu de l'expression des jours, l'endroit de la vérité première, des choses dites et répétées. Elle est la part réelle, profonde, qu'il cède, qu'il consent à sa biographie. Mais il s'agit ici d'une biographie où les faits l'emportent et s'emportent toujours d'émotions, d'espérance et d'angoisse. Une biographie retrouvant celle des autres, une biographie qui brasse les époques, les mêle, les charrie dans un même flux débordant et rapide. On est loin du roman, de la narration souple, des codes, des usages. Les formes sont brisées comme lui l'est, vraiment. Sa prose est l'écriture de son histoire intime, maltraitée, abîmée, dans un siècle de catastrophes. Le livre de l'homme, de rupture en rupture, de Kaminski à Durocher, tente de rattraper le fil de sa propre existence, d'en dégager un sens. Et l'homme blanc écrivait son histoire, rouvre les plaies des camps, fait surgir les horreurs que 30 jours avant la fin du monde retrouve une image terrifiante que ni idole ni étoile érige en testament. Redite, ressassement ces textes plus de 100 fois, remette la douleur à l'ouvrage. Mais le livre de sa vie reste la foire de Don Quichotte, ce projet initial, ce grand projet d'avant les autres, écrit d'un trait, perdu pendant la guerre, et dont les rares bribes ont fini dans la destruction volontaire en 1947 de ces derniers manuscrits écrits en polonais. Que garder d'autrefois? Aucun des siens n'a survécu à l'Holocauste. Il ressent une culpabilité intense d'être le seul en vie et surtout de ne jamais s'être réconcilié avec sa mère. Le souvenir des camps le hante. Il décide de fuir ses années d'épouvante. Abandonnant son pays et sa langue, il sera désormais un poète, un écrivain français. Il choisit son nouveau nom, Bruno Durocher. Bruno pour Bronislav. Et Durocher à cause de Kamien, de Kaminski, qui signifie roche, bloc de terre. Il part vivre à Paris, mais sa fresque le hante. Quel est ce tourbillon de poussière sur la route? Quel est ce chevalier à l'armure luisante qui traverse les regards? Comment la vie moderne a-t-elle pu engendrer un tel coureur d'aventure? De mémoire, il va réécrire en français toute la foire de Don Quichotte. Le livre sort en 1953 chez lui, chez Caractère, la maison d'édition qu'il a créée 3 ans auparavant. Un accomplissement? C'est sans compter sur la mauvaise étoile qui continue de jeter ses feux. Alors qu'il est invité en Pologne par le ministère de la Culture, un imbroglio kafkaïen le retient derrière le rideau de fer. Il y restera jusqu'en 1965. De retour en France, la prison pour dette l'attend. Caractère est en faillite. Il faudra attendre 1977 pour que reparaisse enfin la foire de Don Quichotte. Lire la prose de Bruno Durocher, c'est être au creuset même de l'œuvre. Ta vision écrit là, clame la voix à Saint-Jean réfugié à Patmos. Prose lyrique du poète. Durocher nous transmet ici l'apocalypse de sa traversée du temps. Il avance. Et voici qu'approche de lui le cheval ardent de Don Quichotte. Il se regarde dans les yeux. Le cheval secoue sa crinière et l'invite à monter sur la selle. Ses jambes agiles s'apprêtent à parcourir mille horizons et mille mirages. L'espace est devant lui comme une ligne droite. L'homme se tient immobile devant l'impatience de l'animal. Puis il tombe à genoux. Et il demande à la Providence de veiller sur lui. Voilà une belle présentation donc de Xavier Houssin, dont le cavalier de l'Apocalypse. La présentation donc de la prose, l'œuvre en prose de Bruno Durocher, Les mille bouches de l'homme. Tel est le titre de ce recueil. Alors, la foire de Don Quichotte, je vais vous en lire un extrait. Dans ces recueils magnifiques, il y a des illustrations. Et là, il y a une illustration d'Abraham Kroll. Envoi. À tous ceux qui ont des gros ventres, qui ne voient nul paysage au-delà de celui qui est dans l'ombre de leur nez, qui sont d'accord avec le temps et l'opinion, qui n'ont jamais essayé la perversion ou qui s'y sont entièrement noyés, qui ont l'odorat fin et qui tournent leur cou à droite et à gauche, qui ne savent comprendre la vérité enfermée dans chaque opposition, qui ne sont pas partisans de l'affection qui est à l'origine de toutes les grandes valeurs, qui adorent le mensonge et la force universellement nommée loi et dogme, qui sont malicieux et ne connaissent pas la lutte de l'homme abandonné, qui ne savent pas ce que signifie la prière, qui ne connaissent pas le nom de Dieu, à tous et en plus, à ceux qui ne connaissent pas le sourire véritable. Voilà quelles étaient les dédicaces de Bruno Durocher. Alors, un extrait de son Don Quichotte. La foire de Don Quichotte, chapitre 3. En vérité, Don Quichotte naquit à Paris. Sa mère, sentant venir les douleurs, s'abrita sous un porche de la rue d'Assas, où elle accoucha d'un garçon. Le bébé avait une tête anormalement grande, des cheveux roux et des dents précoces. Il avait les instincts et la force des animaux. Dans les ruelles, dans la poussière puante de la ville, arrachée en sale grabat par des mains grossières, le garçon grandissait et faisait connaissance de la vie. Dans l'asile, pour les misérables sans logis, il y avait une cour noire où couraient des enfants vêtus de lambeaux. Seuls, les yeux de ces enfants montraient l'image d'autres réalités, d'autres possibilités. Ils étaient enfoncés dans un cadre étranger et dans la pâleur. Don Quichotte, enfant, aimait déjà contempler le ciel et arracher les ailes aux papillons et aux mouches. Il courait les ruelles comme un prince. Il connaissait chaque endroit et chaque visage. Les grandes personnes étaient intéressantes uniquement comme aventure, et alors elles étaient rois ou serfs. Il courait dans la rue, attrapait le soleil de ses mains et le jetait sur la tête des passants. Il en tua plus d'un. Alors venaient les rats. Ils entouraient le corps et quelques pas sous la ville, ils festoyaient. Cependant, Belzébuth reniflait et chassait les mouches de son derrière et marmonnait avec contentement. Quelle joie il y aura quand mon frère Don Quichotte grandira et commencera sérieusement à agir. À l'âge de 12 ans, le garçon connut pour la première fois la femme. C'était une voisine de sa mère, une prostituée de 18 ans, pleine d'abcès et de puanteur. Don Quichotte fut enchanté en caressant son corps nu. En même temps, il se grattait le nez, grinçait des dents. « Hola, mendiants misérables et vous tous des logis humides, ceux dont les chats noirs sont frères, voilà votre nouveau prophète !» disait le vieux vagabond, montrant de son bâton noueux le gosse aux cheveux roux et au nez en l'air. « Viens, Don Quichotte, moi je sais que tu connais l'héroïsme et la traîtrise. » Tu es vraiment celui qui était prédit. » Le garçon ne savait ni lire ni écrire et n'avait jamais rien appris. Il savait voler et mentir dès sa naissance. Il sortait du sous-sol obscur, attrapait les passants par le bout de leurs chaussures et avec un rire étouffé, leur jetait des pigeons dans les yeux. Il était le plus sauvage et en même temps le plus sentimental, car lorsque les étoiles se piquaient dans l'azur, son âme hurlait avec les chiens et avec eux courait parmi les ombres, libérant les fleurs de leur peau. Un jour, il se trouvait dans les montagnes. Le vent frappait à la poitrine et se ruait dans les arbres avec un bruit lourd et profond, comme dans le tuyau des orgues. Les sommets de pierre plongeaient dans le soleil et la neige luisait, pâle et vitreuse. Sous les pieds de Don Quichotte s'étendait une vaste prairie où passaient des moutons carillonnant avec leurs sonnettes comme avec des fleurs. À côté se trouvait une auberge. Les rayons de soleil s'enfonçaient dans les fenêtres noires. Par la porte entrouverte, on entendait l'écho des chansons qu'un voyageur tambourinait sur un vieux piano. Don Quichotte se dirigea par là. Il entra sans bruit et personne ne s'aperçut de son arrivée. Quelques minutes après seulement, une petite fille qui jouait avec le chat regarda la porte et montra du doigt Don Quichotte, dont les yeux brillaient comme les feux de la lanterne d'Aladin, et s'écria « Papa, l'enchanteur est arrivé !» Toutes les prunelles embrassèrent de nouveau venu. Involontairement, il y eut un silence. On ne clignait même plus des yeux et on ne remâchait plus les souvenirs du fromage de chèvre et du pain d'épices. Le joueur se leva du piano et se noya dans l'air en essayant de cacher sa gêne. Don Quichotte s'approcha du clavier. Tous attendaient et suspendaient leur respiration au milieu du soupir. La caisse noire se mit à râler sous les doigts du chevalier. Le gémissement était désagréable et presque tragique. Le piano se torturait lui-même, torturait ses cadres, ses cordes, ses tons, l'air et l'espace, mais lentement le râle se changeait en mélodie. Et les sons glissèrent comme un blanc balai. Ils commencèrent à envelopper les auditeurs, à tourner autour de leurs sens et de leur maison. Le piano se surpassa lui-même, car c'était le chant des mains humaines en révolte, des mains qui s'arrachaient de la terre et commençaient d'abattre des arbres comme des bûcherons, et ensuite construire des ponts, des villes et des routes. La mélodie courait, se perdant dans le conte sombre des forêts, rattrapant le vol souple des chèvres sauvages et des biches qui se baignaient dans des lacs et des ruisseaux. La mélodie grandissait, toujours affamée, toujours inassouvie. Les auditeurs se croyaient en plein océan car des fantômes de dentelles irréelles chantaient parmi les vagues et les attiraient. C'était les sons qui les attiraient. Des mains construisent notre vie. Des mains enfoncent le chemin vers le sort inconnu. Des mains libèrent la mélodie. Il acheva. Il ferma le piano et sortit. Dans l'auberge, longtemps encore, régna le silence. Et longtemps encore, il semblait à tous que le piano jouait qui languissait après les images fantastiques. Mais le miaulement du chat rompit le silence. Quelqu'un s'assit et pianota à nouveau, et la petite fille demanda « Grand-mère, pourquoi n'y a-t-il plus d'enchanteur ?» Cependant, Don Quichotte devint un homme. Il revêtit l'armure brillante et lourde. Il monta un beau cheval ardent. Il prit son écuyer auquel il donna un anon sauvage et tranquille. Ils partirent de la tanière obscure et des ruelles vers le palais bâti exprès pour Don Quichotte. « Va-t'en, fils de chien, cochon !» cria derrière lui sa mère à la méchante face édentée de vieille sorcière. Elle se rendit en direction du Caucase pour qu'on l'enchaîne au rocher et qu'on la donne en pâture aux vautours. Compris donc le Don Quichotte de Bruno du Rocher est vraiment, alors ça s'inspire quand même dans cet esprit chevaleresque, utopique du Don Quichotte de Cervantes, mais on retrouve dans cette prose, on retrouve quand même en germe tous les drames de Bruno du Rocher, en particulier dans cette dernière scène où il parle de cette mère, ces mères qui crient Don Quichotte qui s'en va, fils de chien et cochon, mais qui s'en va ensuite se faire enchaîner un rocher et qui est donné en pâture au vautour. Alors, je voudrais quand même aussi citer dans le théâtre et essai, Bruno du Rocher, alors il a fait de tout, hein. C'était un travailleur en définitive, permanent, il ne faisait que ça, travailler. Il a écrit des théâtres, il a écrit de la prose, il a écrit de la poésie, et il a écrit aussi beaucoup de pensées, d'essais. La morale. Alors, ceci est extrait de Les Livres de l'Homme dans œuvre complète, mais c'est le tome 3, Théâtre et essai, Métamorphose de l'homme, c'est le titre de ce recueil. La morale. À quoi servent les syndicats professionnels dans les pays socialistes? Réponse. À défendre les intérêts du gouvernement contre les revendications de la classe ouvrière. C'est tout simple, mais il fallait encore le dire. Et c'est Bruno du Rocher qui le dit. La reine-mère de Belgique vient visiter la Pologne. Au cours d'une conversation, elle demande à Jarosław Iwaszkiewski, président de l'Union des écrivains polonais. « Êtes-vous catholique ?»«
Oui. » »«
Pratiquant ?»«
Non. » »«
Êtes-vous communiste ?»«
Non. » »«
Pratiquant ?»«
Oui. »
On ne peut pas être à la fois un bon communiste, un homme honnête et un homme intelligent. Car si on est intelligent et honnête, on n'est pas communiste. Si on est intelligent et communiste, on n'est pas honnête. Et si on est honnête et communiste, on n'est pas intelligent. De quelle façon peut-on augmenter le nombre de membres du Parti communiste? Au moyen de purges dans les rangs des sans-partis. Alors, voici ce qu'il disait sur l'art et la littérature. Oui, c'était un homme qui n'était pas dénué d'humour, loin de là. Hein. L'art et la littérature. Les naturalistes peignent comme ils voient. Les impressionnistes peignent comme ils sentent. Et les peintres du réalisme socialiste peignent comme ils entendent. Quels sont les courants de l'art dans la Pologne populaire? Tout de suite après la guerre, il y avait le formalisme. Après est venu l'ubisme, ubu, initiale de la police politique
de l'époque stalinienne, UB. Après l'année 1955, ce fut l'illusionnisme, et en ce moment, nous avons le néo-répressionnisme, décrit bien entendu avant la chute du mur de Berlin. Alors, dans l'encyclopédie chinoise de l'année 2100, Nikita Khrouchtchev, critique littéraire artistique de l'époque, Mao Tse-tung. L'an 1970, Khrouchtchev et Johnson se rencontrent dans un camp de concentration chinois. Ils se regardent tristement. Finalement, Johnson dit « J'ai toujours dit, Nikita, que le problème allemand n'est pas le plus grave. » Le problème juif. Deux juifs traversent la place rouge à Moscou. Comme ils ne passent pas sur le passage clouté d'un agent de la milice, un agent de la milice s'approche d'eux et leur dresse un procès-verbal. Alors l'un des juifs demande « Les héros de l'Union soviétique doivent-ils aussi payer l'amende ?» Le milicien salue, s'excuse et s'éloigne. « Es-tu donc un héros de l'Union soviétique ?» demande le deuxième juif. « Non, mais on peut toujours demander. » Voilà les blagues à Bruno Durocher. Le président Kennedy, au cours d'une conversation avec Khrouchtchev, évoque la question de l'antisémitisme en Union soviétique. Nikita Sergeyevitch nie avec acharnement qu'elle se pose dans son pays. La preuve, c'est que sur 300 musiciens du grand orchestre de Leningrad, 217 sont juifs. Combien de juifs avez-vous dans votre orchestre de Philadelphie ? Demande-t-il à Kennedy. Je ne sais pas, répond le président des États-Unis. Alors vous voyez quelle subtilité quand même, dans ces histoires, quelle subtilité. Donc, celui qui compte les juifs et celui qui ne sait pas, parce que il n'y a pas à les compter. Le directeur du cirque d'État de Moscou reçoit la visite d'un Arménien porteur d'une grande boîte. Il propose un numéro exécuté par des souris blanches qu'il a lui-même dressées. Le directeur fait une grimace désapprobatrice. Les souris blanches, tout le monde les a déjà vues. Que non, proteste l'Arménien. Mon numéro n'est pas banal et surtout il est très culturel. Le mot culturel a en Russie un pouvoir magique. Le directeur consent à voir le numéro. L'Arménien ouvre sa boîte et 80 petites souris blanches sortent de leur cachette, toutes habillées en rouge. Chaque souris tient dans ses pattes un instrument de musique. En dernier paraît un petit rat, habillé de blanc, avec une baguette de chef d'orchestre. Quelques instants plus tard, les petites souris ont pris place et sous la direction du rat, exécutent la 5e symphonie de Beethoven. Le directeur ému, enchanté, s'apprête déjà à signer le contrat. Soudain, il se trouble et demande à l'Arménien. « Oui, le numéro est excellent, je signerai volontiers le contrat, mais je voudrais savoir d'abord si le chef d'orchestre n'est pas juif. » Voilà, Bruno Durocher. Plus sérieusement, et pour finir, la poésie est vaste, elle est aussi politique. Les prophètes, les plus grands poètes de l'humanité, étaient des hommes politiques. Chacune de leurs phrases est une pensée engagée dans un combat. Il est évident qu'il existe une autre poésie, libre et hostile à tout engagement social. C'est celle que Platon, un des plus grands poètes de tous les temps, voulait éloigner du gouvernement de la cité. Platon combattait ces fantaisistes aux réactions imprévues qui ont fait leur idole de l'inutilité. Mais ce n'est pas la poésie qui doit servir la politique, mais le contraire. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, appeler les hommes à s'incliner devant la face qui les animait et à obéir à la voix qui tournait à travers eux. Ils n'ont pas chanté la gloire des hommes politiques, mais au contraire, ils demandaient aux politiciens de s'effacer devant les évidences spirituelles. Il faut donc renverser les choses dans le dialogue entre la poésie et la politique et situer la servante là où elle doit se situer. Voilà. C'est sur ces paroles de combat qui sont intemporelles, universelles, que nous terminerons cette émission. Je vous rappelle, Pruneau du Rocher, les livres de l'homme, les trois volumes. Hein. Premier volume, Poésie, tome à l'image de l'homme, c'est le titre. Le volume vaut 39 €, et il y a 1000 pages, et c'est magnifique. Deuxième volume, tome 2, la prose, avec comme titre Les 1000 bouches de l'homme, toujours aux éditions au caractère, 32 €. Toujours une édition magnifique. Le tome 3, Théâtre et essai, Métamorphose de l'homme, c'est le titre, 32 € également. Voilà, je vous invite vraiment à vous procurer ces ouvrages. Je sais que, effectivement, les trois ensemble, c'est peut-être beaucoup, mais vous pouvez commencer en tout cas, au moins, à voir le tome 1 de poésie. Et puis peut-être aussi le tome 3 pour les essais de Bruneau du Rocher. Voilà. Et quand vous pourrez, le tome 2, Les 1000 bouches de l'homme. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Adi Chast.